8h45 sur Europe 1, le club de la presse Europe 1. On va parler de cette opération d'évacuation, entre guillemets, définitive, hein, du camp de consommateurs de crack dans ce square Forceval, situé dans le 19e arrondissement de Paris, tout près de la porte de la Villette. Déploiement policier d'une grande envergure. Hier, près de 1000 policiers et gendarmes. Certains étaient à cheval, des sirènes, une pelleteuse aussi, pour déblayer le camp. Et il y a cette phrase de Gérald Darmanin qui veut croire. Il dit ça lorsqu'il se rend hier après-midi, en fin d'après-midi, sur place. Il veut croire le ministre à un moment important pour l'ordre public rétabli à Paris. Alors que les habitants de la Villette en ont fini avec le crack qui fait des ravages dans ce quartier depuis 40 ans. Quand même, disons-le, ceux qui ont un peu vécu, ceux qui connaissent un peu le quartier, le savent. Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Dimitri.
De Valeurs Actuelles, pardonnez-moi, j'écorche votre nom, je suis fatigué. Adrien Matou est avec nous, c'est journaliste à Marianne. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Alors cette opération policière présentée comme le ministre, comme la DRDDR d'une certaine manière, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que les habitants du quartier qui ont manifesté un nombre incalculable de fois peuvent y croire selon vous Charlotte?
Il faut espérer pour eux, franchement. Après, il y a probablement des habitants d'un autre quartier qui peuvent commencer déjà à s'inquiéter, c'est ça le problème.
C'est l'effet de report, vous voulez dire?
Bah, oui, c'est-à-dire qu'on démantèle à un endroit et probablement qu'il va être surveillé sur long terme, parce qu'en effet, les habitants sont non seulement exaspérés, mais surtout extrêmement inquiets des nuisances. Hein. C'est pas simplement... C'est quoi, le mot nuisance, on a l'impression que c'est des gens un peu capricieux qui se disent « bon, ça fait beaucoup de bruit, quoi ». Non, c'est juste un cauchemar, ils ont peur de sortir de chez eux et d'y rentrer. Donc c'est l'horreur.
Je mais précise ça... que c'est le quartier où avait été bâti ce fameux mur de la honte, il y a pile un an, entre la ville de Paris et la ville de Pantin, dans un tunnel, pour les empêcher de naviguer. On est dans ce même secteur.
Hein. Oui, complètement. Et donc voilà, donc quand on dit démantèlement définitif, peut-être que l'endroit... c'est-à-dire ne servira plus de repère pour ceux qui consomment et deal, enfin pour ceux qui deal et consomment du crack, mais simplement la consommation elle-même n'est pas en arrêt définitif par la force des choses. Donc c'est des opérations qui sont à mon avis nécessaires.
Oui, on a une idée du bilan policier de
l'opération d'hier. Moi je réagis plus sur le nombre. Il y a beaucoup de gens qui sont indignés du fait qu'il n'y ait qu'une garde à vue. Ça s'explique parfaitement bien. Les policiers l'expliquent.
Une garde à vue.
Oui, parce que tout simplement, d'abord il n'y a pas un consommateur de crack à Paris qui va en garde à vue, puisque là c'était essentiellement des consommateurs. Déjà, il faut revenir en amont, il n'y avait pas du tout le nombre de gens...
Attendez, 1000 policiers, une seule garde à vue?
Ouais, alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que les policiers qui sont sur le terrain, ils gèrent le maintien de l'ordre pendant le démantèlement. Ce ne sont pas des enquêteurs précisément, ce ne sont pas des gens qui sont habilités, on va dire, à faire une garde à vue. Et si, je crois qu'il y a quelques 200 contrôles d'identité à ce moment-là, vous mettez 200 personnes, 200 consommateurs de crack en garde à vue, ça se finit. La réponse pénale, dans le meilleur des cas, c'est une injonction thérapeutique, ça ne sert absolument à rien. Et donc, vous avez des consommateurs de crack qui, aujourd'hui, à Paris, la police à Paris n'est pas en mesure d'assumer des gardes à vue pour consommation de crack aujourd'hui. Oui. Et vous pensez bien, parce que déjà, il n'y avait pas le nombre attendu du nombre de gens qu'il y a d'habitude. Donc, quelqu'un a prévenu, évidemment, les gens qui étaient sur place.
On dit que ce sont 600 consommateurs de crack qui défilent dans ce square.
Est-ce que ce sont les associations? Est-ce que la fuite vient de la mairie, de la police, du procureur? On n'en sait rien, peu importe. Oui. Il y avait beaucoup moins de monde. Donc vous imaginez que s'il y avait moins de monde, il n'y avait pas les dealers sur place. Oui. Or, c'est évidemment, les enquêteurs se focalisent sur les réseaux, c'est-à-dire sur les dealers, beaucoup plus que sur les consommateurs.
Adrien Matou, alors quand on regarde un peu la vie du quartier, parce que c'est intéressant, qui vit autour désormais le centre de gravité du quartier, de sa vie, ce sont ces consommateurs de crack. Ça bouleverse complètement la vie du quartier. Il y a ce témoignage ahurissant d'un patron de supermarché dans le coin, dans ce secteur-là, qui racontait que son budget sécurité est supérieur à son loyer, on parle d'un supermarché quand même, c'est quand même absolument catastrophique. Ce sont des habitants qui manifestent en plus régulièrement et ont l'impression d'être des sous-citoyens. Voilà ce qu'ils disent.
Bah, c'est pour ça que cette opération n'est pas si anecdotique que ça. La première réaction qu'on a quand on entend parler, c'est de dire on déplace le problème.
Oui.
C'est vrai qu'on déplace le problème, mais pour les gens qui étaient sur le lieu du problème, c'est très important. Ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés, c'était le cas sans doute. Et là, il y a quand même une réponse de l'État. Alors, vous avez décrit l'opération qui est quand même une opération d'ampleur. Je pense que ça peut quand même répondre à leurs préoccupations. Voilà, l'État a déployé des moyens pour, certes, déplacer le problème, parce qu'on en parlera peut-être, mais les causes sont tellement profondes que c'est compliqué de supprimer cette situation.
Bah justement, on parlait de crack. Ouais, le crack, je rappelle, c'est ce qu'on appelle la drogue du pauvre.
C'est ça, la cocaïne du pauvre, en fait.
Sous-produit de la cocaïne. Voilà, en fait, vous la mélangez avec du bicarbonate de soude, vous faites sécher. Pardonnez-moi,
je vous donne la recette.
Ouais. Non, mais voilà, et ça se vend pas cher. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la drogue du pauvre comparé à la cocaïne.
Oui,
Quel est le problème aussi aujourd'hui, Adrien Matou, autour
de cette drogue ? Les problèmes sont nombreux. Il y a le problème de la misère sociale, parce qu'il y a quand même les gens qui se tournent vers la consommation de cette drogue sont souvent dans des situations de précarité absolument extrêmes. Il y a le problème de la régulation de l'immigration aussi, parce qu'on sait que tant chez les consommateurs que chez les dealers, il y a beaucoup de filières. Il y a un article du Monde assez fascinant qui décrit des... Pas forcément des cartels organisés comme ça peut exister pour d'autres drogues, mais plutôt des immigrés qui viennent du Sénégal, souvent, qui font vivre des familles entières dans leur pays d'origine.
Avec la vente du crack.
Avec la vente du crack.
À la Villette, ouais.
Et alors, qui eux-mêmes vivent dans la précarité, mais qui font un petit peu d'argent avec le crack. Et il y a peut-être un problème aussi de ce que le sociologue Émile Durkheim appelait l'anomie, parce que la perte de sens, en réalité, parce que si vous avez... Les Parisiens le savent, mais les gens qui habitent ailleurs en France le savent peut-être pas, mais... Les consommateurs de crack, c'est des espèces de zombies en fait. C'est des gens qui errent dans les rues sans but, qui ont un regard vide, etc. Pour se tourner vers une drogue comme celle-là, oui. Il faut quand même être dans une situation de perte de sens totale.
Mais vous savez, les gens le savent parce que désormais le crack, on le sait, c'est documenté. Vous en avez dans toutes les grandes villes, vous en avez dans des villes moyennes, c'est à Compiègne, à Mâcon. Aujourd'hui, vous avez des places du crack un petit peu partout dans le territoire. Charlotte Dornelas, Adrien Matou fait allusion à cet article du journal Le Monde qui paraît ce matin et qui nous emmène à Louga. C'est une petite ville du nord du Sénégal d'où sont originaires beaucoup de trafiquants de crack de ce quartier de la Villette. Et ce qu'ils racontent, ces hommes-là, est assez ahurissant. Je vais vous faire juste une citation. Voilà, l'argent du crack, ça sert à construire de belles maisons là-bas, donc à Louga, à payer des visas. Vendre du crack, c'est une vengeance de vendre du crack en France. C'est terrible,
oui,
alors, cette phrase.
Oui. Il y en a un qui dit dans l'article, en effet, que c'est une vengeance par rapport au protectorat français. Bon, lui parle de colonisation, déjà c'était un protectorat, donc on sent que je ne sais pas très bien où cette idée est née, mais j'ai peur qu'elle soit née en France, beaucoup plus qu'au Sénégal. Mais au-delà de ça, parce que Adrien, vous disiez que le problème était très profond. Alors, le problème global du trafic de drogue, oui, mais précisément sur le crack, c'est peut-être le seul trafic sur lequel on pourrait réellement agir, parce qu'il n'est pas encore internationalisé, il n'y a pas encore précisément toute l'organisation, on va dire,
tentaculaire. Parce que la transformation du crack se fait sur place, en fait.
Elle se fait sur place et à Paris, dans des vieilles cuisines, avec des casseroles avec des casseroles complètement pourries qui sont retrouvées, on les appelle les cuisiniers, c'est ça que les stupes, en l'occurrence, recherchent quand ils essayent de remonter un réseau, mais c'est encore assez bancal et par ailleurs complètement importé précisément du Sénégal. C'est pas encore tentaculaire. Vous savez, la guerre contre la cocaïne, bon courage. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc vous pouvez.
Mais on voit une sorte de spécialisation pratiquement d'un village où on se dit allez vendre du crack à Paris. Le mot a circulé. Ça permet de gagner beaucoup d'argent assez rapidement. Et l'on voit arriver ces cuisiniers France. Et voilà, mais vous avez raison, c'est un petit marché en bout de chaîne du vaste marché de la cocaïne.
Exactement, et c'est une drogue qui a des effets absolument délétères. Enfin, vous en parliez à l'instant, mais c'est absolument atroce de vivre à proximité. C'est des gens complètement déshumanisés dans leur comportement, évidemment pas en soi, mais dans leur comportement extrêmement agressif, extrêmement violent, complètement irrationnel. Donc vous ne pouvez absolument rien faire en face de quelqu'un qui a consommé du crack. Ça génère en plus de la prostitution, parce que certes, le produit est beaucoup moins cher, mais il est quand même c'est 5 euros pour un caillou, c'est extrêmement addictif.
Sachant qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas exercer un emploi normal quand on est
addict. Donc les 5 euros, il faut quand même les sortir. Donc il y a énormément de prostitution qui se fait aux yeux de tout le monde dans la rue pour obtenir son caillou. Mais dans l'article, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est un, vous avez des gens qui vous disent c'est extrêmement mal vu dans le village d'où on vient de consommer. Donc simplement, on va faire de l'argent ailleurs. Tout le monde ferme un peu les yeux. À la fin, on a une belle maison et tout le monde est content parce qu'on fait vivre un peu le village. Et deuxièmement, on comprend que le trafic se fait non seulement sur le crack, mais en effet l'argent sert à acheter des visas. Vous apprenez que en fait le réseau de faux visas remonte jusqu'au consulat de France. Et alors là, moi je suis Gérald Darmanin, je me dis ah bah tiens voilà quelque chose d'extrêmement précis. Je mets des enquêteurs là-dessus, je retrouve tous les maillons de la chaîne, tous les maillons défectueux de cette chaîne, parce que on a du mal à expulser. Et là dans l'article, on apprend que Gérald Darmanin va se rendre au Sénégal pour essayer de travailler sur ce problème, et c'est très bien. Ce serait bien aussi de limiter éviter l'importation à la fois des dealers et du produit lui-même aussi.
Voilà. Alors on sait aussi qu'à Paris, le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, est saisi pour mettre sur pied un plan crack 2, parce qu'il avait eu un plan crack 1, visiblement, qui n'a pas fonctionné. Comment éradiquer cela ? On sait qu'aussi, par exemple, ce square Forceval qui a été évacué hier, il était question de délocaliser sa population dans le 12e arrondissement, quartier de Bercy-Charenton, très très forte résistance des élus locaux. Bon, personne n'en voulait.
Bon, alors si j'avais la solution miracle pour éradiquer le problème, je ne serais pas ici.
Vous seriez ministre de l'Intérieur, sans doute, Adrien.
Mais même alors, pas sûr, c'est ça le
après, drame. On en parle souvent, on l'a déjà dit, vous en parliez sur le 12e arrondissement. Bah là, on parle vraiment de déplacer le problème, pour le coup. Mmh. Et je ne suis pas sûr que les habitants du quartier en question soient ravis d'entendre ça. Après, il y a la question lancinante des salles de consommation. Il y avait un rapport en 2021 de l'INSERM et de l'Observatoire français de la consommation de drogue qui préconisait l'installation de ces salles.
C'est-à-dire d'encadrer la consommation. Le but n'est pas de faire arrêter les consommateurs.
Moi, je ne suis pas du tout expert pour me prononcer. Il y a un avantage qui est évident, c'est que ça diminue drastiquement la consommation dans la rue. Après, il y a des questions éthiques qui se posent et vous avez toujours cette question du quartier, en fait. Mmh. Voilà, c'est les gens qui vont arriver à une salle de consommation, ils seront furieux et ils auront sans doute des bonnes raisons d'être furieux.
Ouais, sujet qui reviendra nécessairement à un moment ou l'autre dans l'actualité. Merci d'être venu nous en parler, Adrien Matou, de Marianne, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Bonne journée à tous les